Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent?
J'étais sûr que vous allez me poser cette question et je vais vous faire la même réponse pendant tout l'hiver, fraîchement. Un temps à aller au cinéma, bref.
Je ne vais plus vous poser la question. Oui, un temps à aller au cinéma. On est au chaud et en plus, et oui, on voit de belles choses sur
exactement
l'écran.
Exactement.
Mais vous aimez aussi regarder l'écran de votre télévision, y regarder des films, bien sûr, que vous allez nous conseiller combien ce soir?
Je vais vous conseiller 4 films pour le cinéma, la télévision cette semaine, et on peut aussi éteindre tous nos écrans, et il y aura un conseil de lecture, qui peut être un cadeau, puisqu'il paraît que Noël approche.
Oui, et les conseils de Lolo?
Oui, on peut dire ça, ouais, on va les lancer là, ça y est, décembre.
Oui, on est le 3 décembre.
Les bons plans pour faire des beaux cadeaux, pas trop chers.
Exactement. Histoire de faire plaisir.
Exactement.
Et d'être un beau Père Noël. À propos de Père Noël, lui, il l'est presque, mais en tout cas, il a toujours son bleu de travail, puisque c'est notre spécialiste de la mécanographie cinématographique, Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Retour de Manivelle, c'est oui, votre chronique, faites-nous rêver.
Et puis en lien avec le livre que va conseiller Laurent tout à l'heure, donc ça tombe bien, film culte, un mythe, un opéra crépusculaire à retrouver demain soir au Pâté Wilson et la Beige.
Il y aura le billet de notre homme de loi des séries pour son tribunal, vous savez, qu'il ouvre toutes les semaines. Grégory Combe nous parlera ce soir de Stranger Things. Ah oui, on attendait la saison 5 avec impatience et Netflix a fait durer le suspense. Et alors, c'est diffusé en deux parties. La première partie a commencé, c'était vendredi dernier, je crois, 4 épisodes, avant d'en voir 3 aux alentours de Noël. Et le dernier, puisqu'il y aura 8 épisodes dans cette saison, sera pour le début de l'année ou la fin de l'année prochaine. La fin de cette année ou le début de l'année prochaine. On se mélange avec ce changement de date et d'année, bien sûr. Dans le panier de l'ouvreuse, vous retrouverez aussi les chroniques que vous avez l'habitude de savourer tous les mercredis entre 19h et 20h, à savoir l'affiche de la semaine qui est scrutée attentivement par l'ouvreuse et Laurent Martin. On parlera reprise sur le grand écran et puis bien sûr des coups de cœur en fin d'émission parce qu'on a toujours des films, des expositions et des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et à propos de manifestations, ce soir nous avons une invitée de choix, Manon Dornier, la présidente de l'association Séquence Court qui va souffler 34 bougies cette année, ce sera l'occasion, cette 34e édition, de voir et de revoir le festival Séquence Court Métrage du mercredi 10, c'est-à-dire mercredi prochain, au dimanche 14 à Toulouse et en Occitanie. Bonsoir Manon.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir Laurent, bonsoir à toutes et tous. Je suis très contente d'être avec vous ce soir.
Ah ben nous sommes aussi.
Une voix féminine. Hein,
ah ben enfin. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça faisait bien longtemps que vous ne nous aviez pas donné de nouvelles de Séquence Court. On en avait eu, mais par d'autres intermédiaires. Manon Dornier, cette année, encore une fois, une belle programmation. Alors vous me direz si je me trompe, il y a environ une centaine de films proposés.
Exactement, ouais, une centaine de films, on en reçoit environ 1300 par an, donc via un appel à projet, mais il y a aussi des films qu'on repère dans d'autres festivals, des gros festivals, mais des plus petits aussi qu'on aime beaucoup et qu'on des programmations assez pointues ou très spécifiques. Et donc il y a un gros travail de programmation qui est fait, puisqu'effectivement on en sélectionne seulement une centaine qu'on répartit dans différents programmes, thématiques, compétitions.
Alors les thématiques, il y en a quelques-unes, vous nous dites plus d'un millier de films pour en garder une centaine. Effectivement, la sélection est draconienne peut-être, c'est pas compliqué de se mettre d'accord. Vous êtes combien pour regarder les films?
On est une petite dizaine. Cette année, je trouve qu'il y a des sélections qui ont été très très rapides à faire, puisqu'il y avait des très gros coups de cœur, donc on était unanimes. Et parfois, on est mitigé sur les films, et dans ces cas-là, on se dit aussi que c'est super de montrer ces films-là, puisqu'il n'y a pas de consensus, donc on sait qu'ils vont plaire énormément à beaucoup de personnes et déplaire à d'autres, et c'est aussi bien de montrer des films différents, qui posent questions.
J'ai une question, jusqu'à quelle durée on peut parler de court-métrage, puisque ça peut être de 1 minute à 43 minutes, j'ai vu sur votre programmation. Alors, quel moment on arrête le minutage?
Alors le court-métrage, normalement, c'est jusqu'à 59 minutes. À partir de 60 minutes, c'est un long-métrage. À séquence, on fait le choix de recevoir des films qui ne durent pas au-dessus de 25 minutes pour nos compétitions, ce qui nous permet de réduire un petit peu le nombre de films reçus, parce qu'il y a énormément de films qui font entre 25 et 30 minutes, et on n'a pas le temps de regarder tous ces films. Donc on préfère en recevoir moins, mais bien les visionner. Et donc pour les programmes thématiques, on se permet parfois des petits écarts, on va dire, quand on a des gros coups de cœur, ce qui est le cas cette année dans un programme qu'on fait avec l'association La Petite, le festival Girls Don't Cry qui a lieu ce week-end d'ailleurs. Et là, il y a un très gros coup de cœur d'un film qui s'appelle Eurydice. Eurydice qui fait 43 minutes effectivement, et on se dit que ce serait dommage de ne pas le montrer sur grand écran.
43 minutes, et effectivement, c'est un long court-métrage, ce qui fait que pour programmer une séance, ça fait peu d'autres films pour l'accompagner, hein, parce que une séance dure en moyenne 1h15.
Nous, on va jusqu'à 1h30. Oui. Pour les compétitions, en général, on va jusqu'à 1h20 plutôt, puisqu'on a l'habitude de recevoir des invités, que ce soit les réalisatrices ou des monteurs ou autres. Donc on aime bien avoir le temps de discuter. Mais là, vous voyez, pour la séance Girls Don't Cry, on a quand même 6 films, parce qu'on a aussi des films très très courts qui accompagnent ce moyen-métrage. Et on a l'invité d'ailleurs de Eurydice Eurydice qui sera là ce soir-là. Donc c'est vrai que ce film prendra beaucoup de place, mais à séquence, on aime aussi beaucoup les films très très courts, notamment les films d'école.
C'est ce que j'allais vous demander, Manon Dornier. Il y a des courts-métrages, alors à l'inverse, qui sont très courts, qui peuvent durer 3-4 minutes.
Même moins, parce que cette année, j'imagine que tu reviendras dessus, mais on a une ouverture cette année autour du CRI, puisque chaque année, on fait un focus sur notre affiche. Bon, là, on est à la radio, mais rien ne vous empêche d'aller cliquer et d'aller chercher sur le site de Séquence pour découvrir toute la prog. Ouais. Et cette année, donc, on a un gros koala et une jeune femme qui crie devant ou qui rigole, on ne sait pas trop, mais nous, en tout cas, cette année, on avait vraiment envie de faire pousser un gros cri.
Est-ce que c'est un cri par rapport aux coupes budgétaires, par rapport à la culture, un cri de rage, voilà?
Ouais, il y a plusieurs cris dans ce programme. Je pense qu'il y a un cri d'énervement lié à l'actualité politique, nationale, internationale. Mais il y a aussi des cris de joie. Et pour revenir à ta question, Louis-Marie, débute ce programme par un film qui dure 1 minute.
Oui, c'est donc ça, c'est ce que j'allais dire.
C'est un très petit court-métrage.
Los Gritones, hein, il faut le dire comme ça, c'est un espagnol.
Exactement.
Roberto Pérez Toledo.
Ouais, c'est un film qu'on a déjà montré plusieurs fois, mais franchement, quand on s'est dit qu'on lançait une séance sur le cri, on était obligé de commencer par ça. C'est hilarant.
Évidemment. On va reprendre cette conversation et tout savoir sur Séquence Court-Métrage, la 34e édition, mais pour le moment, il est bon de s'installer pour voir et assister à la projection de notre film qui débute toujours notre émission.
Vous seriez venu à moi comme un ami, alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait à se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous.
Il aurait très peur de vous s'il avait eu la bonne idée de contacter. Mais de contacter qui donc, Guillaume Sidom?
Ah bien, on va le savoir pour Le Parrain, film de Francis Ford Coppola, sorti en 1972 avec James Caan, Marlon Brando, Al Pacino, John Cazale, Diane Keaton, Robert Duvall. Casting 5 étoiles, musique signée Nino Rota, que vous entendrez à la fin de ma chronique. C'est tellement beau. Des répliques cultes, des scènes mythiques. J'ai confiance en l'Amérique, c'est elle qui a fait ma fortune. Derrière chaque grande fortune, il y a un crime. Ces deux répliques du film culte et du livre contiennent donc l'essentiel de cette grande saga italo-américaine, et à la vocation de cette dernière, des images, des sons surgissent immédiatement et évidemment dans l'esprit de ceux qui l'ont déjà vu. Difficile en effet d'oublier la musique de Nino Rota, les mimiques et la voix de Marlon Brando, le jeu extraordinaire d'Al Pacino pour ne citer que, mais rien ne prédestine pourtant alors cette adaptation du roman éponyme de Mario Puzo, sorti en 1969, à devenir un véritable chef-d'œuvre du cinéma. Francis Ford Coppola ne veut pas faire ce film de commande, en effet. La Paramount Paramount veut un petit budget pour un long métrage tourné en studio. Les acteurs ne veulent ni de Marlon Brando, ni d'Al Pacino. Et
les,
la
producteurs.
Les producteurs. Et la mafia italo-américaine new-yorkaise veut même stopper le tournage. Et si un film a changé nos regards sur les films de gangsters, c'est bien celui-là, au grand bonheur de la mafia, qui soudain devient peut-être mythique, légendaire, voire romantique. Mafia est d'ailleurs un mot qui n'est jamais prononcé dans ce film, pourtant long de 3 heures. Pas une année ne passe sans que je revoie ce film. Ces films, c'est en 1972 que le film culte de Francis Ford Coppola débarque sur les écrans du monde entier. L'adaptation donc du roman, je l'ai dit, de Mario Puzo. Il nous raconte de 1945 à 1955 l'histoire de la famille Corleone, l'une des plus grandes familles mafieuses américaines d'origine sicilienne, avec en patriarche, souvenez-vous, l'implacable Vito alias Marlon Brando. À cette scène d'ouverture mythique au cours de laquelle Bonaparte Nacera, face caméra, vient demander justice à Don Corleone, lequel joue avec un chaton, qui, dit-on, a été trouvé le matin même rôdant autour du studio de la Paramount. Ce plan d'un seul tenant, qui dure 3 minutes, se termine par Don Corleone, vu de dos, le tout contrôlé par un zoom guidé par ordinateur. Voilà ce qu'est sans doute un film culte, l'improbable rencontre d'un matou de gouttière, d'une star aux genoux alourdis par des mouchoirs en papier, et le recours donc à une technologie de pointe pour les filmer tous les deux.
Mais justement, cette star, Marlon Brando, il semble que le film n'a pas été écrit pour lui.
Eh oui, lui, Marie, on ne peut rien vous cacher. La production veut au départ l'acteur britannique Laurence Olivier, mais son agent fait répondre que l'acteur est très malade, qu'il va bientôt mourir et qu'il n'est pas intéressé. On notera que ce dernier va mettre 18 ans à accomplir la funeste prédiction de son agent. Voilà pour la petite histoire dans la grande. Brando va quant à lui tenir et endosser ce rôle à merveille, devenant une sorte de bloc marmoré, hein, en incarnant à lui tout seul la monstruosité de la pieuvre. Nous allons donc pouvoir découvrir ou redécouvrir, c'est selon, le film culte de Coppola en version restaurée. Le casting est stupéfiant. Il y a James Caine, l'impulsif, qui vient du cinéma américain. Il y a Pacino, dont les studios ne veulent pas. Il est sicilien, avec un physique italo-américain. Et puis il y a John Cazale, qui est le frère fragile, qui n'arrête pas de ne pas suffire. Ce qui est marquant, c'est donc l'extrême classicisme de ce film. Les 3/4 des scènes sont tournées en plan fixe et c'est filmé avec une rigueur et une simplicité de tragédie. C'est beau comme une peinture flamande. Et la lumière de Gordon Willis, le chef opérateur, est à tomber par terre. Il éclaire par au-dessus et avec des petits projecteurs, ce qui fait ressortir les visages des acteurs malgré toutes les adversités. Le Parrain sort sur les écrans donc le 22 mars 1972. Succès critique immédiat et carton au box-office, produit avec 6 millions de dollars, il va en rapporter 244. Tragédie grecque et drame shakespearien, Le Parrain va séduire les foules. L'American Film Institute le classe comme le second meilleur film américain de tous les temps, derrière Citizen Kane. La saga mafieuse de Francis Ford Coppola est devenue depuis un objet culte, à retrouver donc ce jeudi 19h30 au Pâté Wilson à Toulouse et à 20h au Pâté La Bêche. Dans le cadre de la séance, Il était une fois, présenté par Philippe Rouillet, qui est journaliste et critique de cinéma, en Blu-ray et DVD chez Paramount en version collector 4K, avec de nombreux bonus inédits. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Sur cette musique signée Nino Rota, il y avait bien sûr une chanson par Le Plus Bas dans sa version française et elle était interprétée, rappelez-vous, par Dalida. Laissons le parrain, Don Corleone, à ses affaires. Et quelles affaires ! On ne lui manquera pas de respect, comme on ne manquera pas de respect non plus à Manon Dornier, qui vient nous parler de séquences court-métrage, qui en est à sa 34e édition. De bien belles choses à proposer. Y aura-t-il des films de mafia ?
Eh bien, je ne crois pas, non ? J'ai pas l'impression, j'étais en train de réfléchir aussi s'il y en avait, mais je crois pas non, qu'on est de mafia à cette édition.
C'était une occasion de faire...
transition.
Oui, petit parallèle, rebondir sur la chronique de Guillaume Sidom. Alors, on parlait du cri en ouverture avec ce court-métrage très court, une minute, ça c'est l'ouverture qui aura lieu mercredi prochain, 10 décembre à 20h30 au cinéma ABC, mais il y a plein d'autres choses, notamment, là aussi, c'est un passage obligé de séquence court, la nuit du cours, là où on passe toute la nuit devant un écran, et quel écran ? Ce sera au Théâtre du Grand Rond, et un programme avant, il y aura un spectacle à 21h, mais après, plusieurs sessions... pour aller de 23h jusqu'à 3h du matin. Ça fait un beau programme en perspective. Hein.
Carrément, surtout qu'on monte en puissance. Donc la nuit du cours, hein, le concept au-delà de regarder des films toute la nuit, c'est aussi de montrer les films les plus fous qu'on reçoit chaque année. Le mieux, c'est qu'on en reçoit. Voilà, donc plus on avance dans la nuit... plus c'est n'importe quoi, je dirais.
Alors, pour en revenir à la sélection, c'est pareil, vous mettez dans les conditions de la nuit pour arriver à ce n'importe quoi qui fera la programmation de ces sessions, ou pas ? Comment vous faites ? C'est quoi n'importe quoi ?
Alors...
C'est compliqué comme question.
C'est quoi n'importe quoi ? J'ai oui. Combien de temps ?
Vous avez 3 heures pour composer.
4 non, heures. Ben c'est souvent au niveau de la forme. Donc c'est vrai que c'est un programme où on retrouve beaucoup de films d'animation où la narration va pas du tout être linéaire, complètement éclatée, des couleurs complètement aussi mélangées. Voilà, il y a un film que j'aime beaucoup dans la nuit du cours qui s'appelle Lamento, qu'on a découvert au Festival de Clermont-Ferrand cette année. Et c'est un film expérimental d'un couple, d'un homme et d'une femme qui se déchirent, mais qu'avec des chansons hyper connues. Donc il y a Céline Dion, il y a Whitney Houston, et donc ils ne parlent pas, ils font que des mimiques autour des chansons. Voilà.
C'est un peu comme on connaît la chanson.
Ah oui.
Le film, long métrage qui avait signé Bakri Jaoui comme scénariste, hein, c'était à la René qui signait le film, qui le réalisait. On est dans une ambiance un peu similaire.
Un peu plus expérimental, je dirais.
Voilà. Mais justement, c'est ce qui est intéressant. Alors, à propos de la nuit du cours, il y a 3 sessions, chacune à 6 films. Hein. Mmh. Et est-ce qu'on peut assister à chacune, à une des sessions ou on peut s'échapper ou on va rester?
C'est un programme en général qui est complet, mais c'est vrai qu'on perd quelques personnes au fur et à mesure de la nuit. Mais franchement, en général, il y a bien 80 personnes qui restent jusqu'au bout motivées, qui ont vraiment de voir jusqu'où on va.
Ouais. Louis-Marie, il ne faudra pas s'endormir, hein, comme l'année dernière.
Vous venez?
Nous viendrons la nuit du cours, donc c'est vendredi 12 décembre, hein, pas vendredi prochain, mais vendredi en 8. Alors à 21h, il y aura d'abord un spectacle, puisque c'est au Théâtre du Grand Rond, et après ce spectacle, de 23h à 3h du matin, les 3 sessions de court-métrage qui fait environ 18 films, c'est ça ?
Ouais, pour 4 heures de programme en
fait. Ouais, ça fait...
Comme un très long métrage, quoi.
Oui, mais l'avantage, c'est qu'on change d'ambiance, on change de thème, on change d'histoire chaque fois. Donc, c'est quelque chose qui permet justement de résister à la nuit et à la fatigue. Donc.
Mais oui, mais c'est ça qui est formidable avec le format court.
Un mot sur la compétition nationale. Là aussi, c'est ambitieux, toujours à séquence courte, puisqu'il y a 3 programmes de films qui amènent 15 films en compétition, si j'ai bien compté. 3 programmes qu'on peut voir et qui vont être jugés à la fois par un jury de professionnels, mais aussi par le public, puisqu'il y a un prix du public.
Tout à fait. Et dans ces compétitions nationales, on mélange vraiment l'animation, la prise de vue réelle en fiction, le documentaire, des formes plus expérimentales, des films plus hybrides, puisqu'on trouve aussi beaucoup d'hybridité dans le format court. Et bon, là, je me permets un petit focus, puisqu'il y a un film toulousain dans le programme, qui est « Como si la tierra se la hubiera tragado », c'est d'espagnol, pas de l'occitan,
ah
puisque
bon
le film est réalisé par une réalisatrice franco-mexicaine, et donc il a été produit et presque entièrement fabriqué à Toulouse, et il a un magnifique parcours en festival, il a eu le prix du jury, par exemple, à Sundance, il est présélectionné aussi pour les Césars, pour 2026, et voilà, on a des très très beaux films, on est très très heureuse de cette sélection comme chaque année.
Je vois quand même qu'il y a pas mal de titres en espagnol, parce que dans le même programme où il y a le film dont vous venez de nous parler, il y a Un hijo y un padre. Ça ouais. Aussi, c'est de l'espagnol.
Ouais, là, c'est un film franco-colombien. Donc, c'est vrai que dans les compétitions nationales, on a parfois des films en coproduction. Mais donc, on choisit des films majoritairement produits par la France, quand même. Sinon, ces films se retrouvent en compétition internationale, évidemment.
Oui, mais comme la nationalité d'un film, c'est sa production qui la détermine, non pas le réalisateur ni les acteurs qu'on peut trouver dedans.
Ou
le lieu de tournage. Mais d'où vient l'argent ?
Exactement.
Et donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des films qui ne sont pas en langue française, mais qui sont pour autant dans la compétition nationale.
Oui.
Voilà, c'est le cas de plusieurs films de cette sélection, effectivement.
On va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, et surtout l'ouvreuse. Et vous avez du pain sur la planche, heureusement que vous êtes deux, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés cette semaine. On voit que la fin de l'année approche.
Oui, beaucoup de films cette semaine. On va commencer par « Les enfants vont bien » de Nathan Ambrosioni, avec Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Chokri. Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis des mois, mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Et au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsque la gendarmerie, Jeanne comprend qu'aucune procédure de recherche ne pourra être engagée. Donc Suzanne a fait le choix insensé de disparaître et de laisser ses deux garçons donc à sa sœur. Ses deux enfants, pardon, à sa sœur. Alors c'est le troisième long métrage de Nathan Ambrosioni après les Drapeaux de papier en 2018 et Tony en famille en 2023. Et à seulement 26 ans, celui-ci ne cesse d'épater par la maturité de son écriture et son talent à signer des portraits de femmes d'une telle acuité. Son film, donc, je l'ai dit, se vaut une visite a priori banale que Suzanne rend à sa jeune sœur. Alors elle partira, mais où est-elle partie ? Pourquoi a-t-elle décidé de s'évaporer comme ça sans donner d'explication ? Et puis surtout, comment gérer du jour au lendemain ses deux enfants, hein, alors qu'elle-même n'a jamais été mère et n'éprouve spontanément aucun instinct maternel ? Voici toutes les questions qui se bousculent instantanément dans la tête de Jeanne, à la fois chaos debout et dans l'obligation d'agir au plus vite en s'appuyant sur son amie Nicole. Transcendant le sujet des disparitions volontaires, Ambrosioni signe un film sur la famille, les liens qui unissent ses membres et peuvent à tout moment s'étioler, voire se rompre. Un film d'une sensibilité infinie, sans cris ni heurts, où les douleurs, les angoisses sont tout d'abord intériorisées et muettes pour ne pas affoler encore plus les deux jeunes enfants. On en ressort assez bouleversé, aussi bouleversé d'ailleurs qu'épaté par la qualité de ce scénario et la manière dont les interprètes s'en emparent. Juliette Armanet qui incarne Suzanne, Monia Chokri qui incarne Nicole, mais surtout Camille Cotin hein, qui incarne Jeanne et qui montre qu'elle est vraiment une grande actrice, à qui Ambrosioni d'ailleurs offre encore une fois un rôle majeur hein, après le Tony en famille, confirmant qu'elle s'épanouit comme jamais. dans son jeu, sous sa direction. Petite revue de presse sur ce film, une œuvre incontournable selon le public. Première a beaucoup aimé aussi. Avec tendresse et lucidité, ce drame explore les fractures familiales et le vertige du vide laissé par une absence inexplicable. Point positif pour La Voix du Nord aussi, pudique et poignant. Criticat a moins aimé, au lieu de laisser cette incertitude infuser le récit, la mise en scène la neutralise systématiquement. À l'affiche aussi cette semaine, un film qui intéressera nos auditeurs, c'est Teresa, le film de Teona Strugar-Mitevska. Nous sommes à Calcutta en 1948. Mère Teresa s'apprête à quitter le couvent pour fonder l'ordre des missionnaires de la charité. En 7 jours décisifs, entre la foi, la compassion et le doute, elle forge la décision qui marquera jamais son destin et celui de milliers de vies. Alors vous savez, il y a toujours deux écueils à éviter lorsqu'on réalise un biopic. Ne pas s'obliger à l'exhaustivité et faire un film à rallonge, ni tourner autour d'un même sujet. Teresa évite les écueils en se limitant, donc, comme je l'ai dit, à 7 jours décisifs dans la vie de Mère Teresa en 48, donc à Calcutta, juste au moment où elle attend d'autorisation de fonder sa propre congrégation. On voit principalement à l'écran l'actrice Noémie Rapace, je vais oublier de citer, qui incarne Mère Teresa. Alors, c'est un film un peu spécial. Il y a des riffs de guitare à chaque apparition, un visage assez tranchant comme une lame, un regard noir comme des billes d'acier, un port inflexible, tel est la première vision que le spectateur aura de la future Mère Teresa, en découvrant une nonne rageuse, engrossée dans sa tenue surmontée de sa cornette religieuse. Ce film met quand même en avant l'obstination et l'ambition de son personnage principal. Petite revue de presse sur ce film, un regard moderne qui invite au débat, honnête dans son envie de vérité, selon Lacroix. Positif, bien aimé aussi. Il y a certes des maniérismes inutiles, des ralentis, des scènes oniriques, mais le projet est remarquablement écrit et joué. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir « Dites-lui que je l'aime » de Roman de Boringer, adapté du livre de Clémentine Autain. On peut le voir à l'American Cosmographe. C'est le retour d'Abdelatif Kechiche avec « Mektoub My Love » Canto Doué, qu'on peut voir au Pathé Wilson ou à l'Utopia Bordeaux Rouge. On peut voir le nouveau film de Fabrice Eboué, Gérald le Conquérant. On peut voir un film italien, Fleury, de Mario Martone, avec Valeria Golino. C'est un biopic de Golienda Sapienza. On peut voir au Grand Palais à Cahors ou à l'ABC à Toulouse. Teresa, dont j'ai parlé il y a quelques secondes, on peut le voir au VO de Muret ou au CGR à Blagnac, hein, c'est à préciser. On peut voir aussi The Shadow's Age de Larry Wong. Pour l'éternité de David Frayne, une comédie romantique. Five Nights at Freddy's 2, film d'épouvante et d'horreur, c'est pour vous, Guillaume, ouais. Des Matamis. Ça, c'est pour vous, Louis-Marie The Doors, When You're Strange de Tom DiCillo, qu'on pourra voir le lundi 8 décembre à 20h au Pathé Wilson. On peut voir un documentaire sur Brigitte Bardot, qui s'appelle tout simplement Bardot, d'Alain Berlinet et Elora Thévenet, qu'on peut voir au CGR Rodez. Et c'est la rubrique des tout-petits, Panique à Noël, film d'animation dès 6 ans, d'Henrik Martin Dalsbacken. Et on pourra voir La Petite Fanfare de Noël, un film d'animation, c'est un programme de court-métrage. À noter qu'à l'American Cosmographe, samedi 27 décembre à 16h, ce sera un ciné gourmand plus un ciné doudou. Alors, Guillaume, ciné doudou, Manon, Louis-Marie, il faudra retrouver autre doudou. Hein. Ouais. Alors, Louis-Marie, c'est pas la peine, il a dû disparaître depuis le temps.
Donc, vous dites, il est usé, mais toujours là.
Ah, vous l'avez toujours. présentation de la séance en musique. Venez donc avec votre doudou hein, ou votre peluche préférée hein, et terminez la séance en prenant un goûter. Voilà pour les gourmands, voilà pour le cinéma, voilà non, pour l'ouvreuse cette semaine.
Sei a
Coucou Paloma, le fameux titre de Joao Gilberto, mais là, c'est la surmultipliée que lui a donné cet interprète italien, Franco Battiato. C'était en 1981, ça fait un moment. Pourquoi si loin ? Eh bien, parce que l'action du film dans lequel ce titre apparaît se passe dans les années 80 et a pour titre Il Maestro. Il Maestro, c'est qui ? Ben, c'est Raoul, un ancien champion de tennis devenu entraîneur. Il est incarné par maintenant l'incontournable Pier Francesco Favino, fameux et célèbre maintenant acteur italien. Et avec lui, il y a Felice, son jeune disciple âgé de 13 ans, dont il doit faire un gagnant tout au long de tournois qu'il va disputer pendant l'été. Donc c'est la confrontation de cet homme qui cache des plaies hein, quand même, et ce jeune homme, il a que 13 ans, n'exagérons rien, ce garçon un peu grand maintenant, qui lui a été dressé pour jouer au tennis par son père, physicien ou mathématicien, et donc tout est au cordeau. Alors c'est compliqué.
Là, il y a un double récit d'émancipation, vous l'aviez dit, hein. Je crois que vous l'aviez dit dans Mercredi Cinéma ce matin, retrouvé sur radioprésence.com, avec un adulte abîmé tenant à se reconstruire, et puis un adolescent cherchant lui à s'affirmer.
Voilà, et bien vous pourrez découvrir tout ça en la présence d'Andrea Di Stefano, le réalisateur du film Il Maestro, demain soir à 20h30 au cinéma ABC, dans le cadre des rencontres du cinéma italien. Vous avez noté, allez, on continue à faire Cucurucu Paloma. Like just a woman, like a rolling stone. Un peu en anglais aussi, hein. Ce morceau est important, guettez-le dans le film, parce que c'est le moment où le jeune garçon, 13 ans, a compris qui était son entraîneur et ce qu'il faut faire pour jouer au tennis, au moins pour y prendre du plaisir. Et c'est le moment où tous les deux dansent parce qu'ils entendent cette musique au loin, où des gens font la fête.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Et tout de suite, on retrouve notre homme de loi des séries et son tribunal, surtout, est Stranger Things, partie 1, saison 5.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, ce soir, je vous parle d'un phénomène des séries télé qui revient. Et clairement, des phénomènes en séries télé, il y en a de moins en moins. Je le déplore. Le moment où on se retrouve tous à la machine à café pour débattre de l'épisode qu'on a vu, du cliffhanger qu'on a, des théories, bah depuis l'époque Game of Thrones, en fait, ça n'arrive quasiment plus. Et il faut attendre effectivement le retour de Stranger Things, donc c'est la série dont on va parler ce soir, pour qu'on ait à nouveau un phénomène télévisuel qui alimente les discussions à la cantine. Donc, ça parle de quoi, Stranger Things ? Bah, ça fait 3 ans qu'on l'attend cette saison, donc vous avez pu oublier. On est dans une petite ville, la petite ville d'Hawkins, dans l'Indiana. Et c'est dans les années 80. C'est justement tout l'intérêt de cette série, c'est faire surfer sur la nostalgie des années 80, mais vous allez voir que c'est un peu plus quand même. On a donc Will Byers, c'est dans la saison 1, un garçon de 12 ans qui est enlevé par une créature venue d'un ce qui semble être un monde parallèle. Et là, on va avoir à la fois l'enquête des enfants, les amis de Will qui vont tenter de trouver ce qui se passe, et des adultes aussi qui vont tenter de résoudre ce mystère, évidemment lié à la CIA, lié aussi à des militaires, et un personnage emblématique, celui d'Eleven ou d'Elfe, qui est une jeune fille avec des pouvoirs psychiques très importants. Donc, on a suivi cette série, c'était un phénomène. Quand elle est arrivée, cette série, elle n'était pas annoncée ni rien. D'ailleurs, Netflix l'a reconnue, il ne se basait pas dessus pour un grand avenir. Hein. C'est une petite série comme ça. Elle a défrayé la chronique et là, ils ont commencé à y mettre des moyens pour raconter une histoire de plus grande ampleur. Ce qui a plu de suite, évidemment, c'est cette ambiance années 80. Et d'ailleurs, chaque saison revenait sur des événements emblématiques, des musiques emblématiques des années 80, tout en mettant derrière un côté, ce qu'on voit plus trop aujourd'hui, film d'horreur, mais pour enfants. Vous savez, un petit peu comme les Gremlins à l'époque, qui, quand moi je regardais, quand j'étais enfant, ça me faisait peur, mais j'adorais aussi. Donc on a ce côté aussi très Stephen King avec les enfants qui sont un peu cette pureté-là pour rechercher et se battre contre le mal. Donc on a aussi des hommages réguliers au cinéma de cette époque. Et oui, évidemment, grand nostalgique que je suis, cette série, elle a tapé directement dans mon cœur. Et j'avais adoré la série, même si je lui reconnaît des longueurs. Je trouve que, honnêtement, saison 2 et saison 3, elles sont très bien, mais en termes d'histoire, elles ne racontent pas grand-chose. La saison 4 était excellente, avec la venue d'un méchant, Vecna, qui est un des meilleurs méchants des séries télé, je trouve, autant dans le design que dans son histoire et que dans le personnage, et dans l'interprétation. Et donc, on attendait cette saison 5 avec impatience. 3 ans, il aura fallu pour la voir, 3 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est trop long. Déjà, le format série télé, c'est un format pour raconter certaines histoires. Et là, on voit très clairement qu'on tend vers le film. Et raconter une histoire en film et raconter une histoire en série télé, c'est pas la même chose. Là, on attend 3 ans, donc on a le temps d'oublier, on a le temps de passer à autre chose. Vous allez me dire, oui, mais c'est la société de consommation, vous êtes habitué à avoir trop de choses, et l'attente, c'est bien. Je dis pas que l'attente, c'est mal, mais en tout cas, ça correspond pas au format série télé. Attendre des films, oui, vous pouvez en plus vous remater tous les films derrière, rapidement. Là, il faut se retaper toute la série télé, certains l'ont fait, mais c'est un petit peu long. Et encore une fois, c'est pas comme ça que se construisent les séries télé. Alors vous allez me dire, mais ces 3 ans, elles ont servi à rendre la série meilleure. Pas nécessairement. Dans les 3 premiers épisodes, parce qu'effectivement, cette dernière saison, elle va être découpée en 3 parties. On aura toutes les parties au 1er janvier. Mais là, c'est les 4 premières salves d'épisodes. Les 3 premiers épisodes, en fait, c'est des épisodes presque lambda, où je vous avoue, je me suis même un peu ennuyé, et où les stéréotypes années 80 et des personnages, et ça aussi, attendre 3 ans, c'est les gamins, ils ont grandi, ils ont 20 ans. Donc les habiller comme des enfants, ça marche pas, ça rend pas la série crédible. J'ai failli sortir sur ces 3 premiers épisodes, et j'ai failli arrêter la série. C'est pas que c'est mauvais, mais en fait, j'y crois plus. J'y crois plus, les enfants sont des adultes, même habillés en enfant, ça marche pas. On redit les mêmes choses, bon. Et arrive le 4e épisode, qui me fait mentir. Le 4e épisode, c'est un épisode d'1h20, qui pourrait être très clairement un téléfilm, voire même un film. La réalisation est exceptionnelle. La montée en puissance des personnages est génialissime. Les théories qu'on avait mis commencent à se réaliser. Et on monte dans un niveau de menace quasiment jamais atteint. Et là, on est clairement, on me replonge dans les films d'action, les films action-horreur des années 80 de façon extraordinaire. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ces 3 ans, ils ont été trop longs et ils ont abîmé la série, clairement. Le fait de ressortir de son format habituel, ça abîme aussi la série, on y croit moins. Mais quand il revient aux fondamentaux, hein, on va parler comme au rugby, on a une série avec une réalisation géniale, avec des personnages attachants et avec un méchant, peut-être pour moi le meilleur méchant du monde des séries télé. Donc, oui, chers auditeurs, votre temps est précieux. Et je vous conseille quand même de le dépenser devant cette première partie de la dernière saison de Stranger Things, parce que dans son 4e épisode, elle revient à son meilleur et je pense qu'on va aller crescendo. Je vous remercie.
Il a tout dit. 4 épisodes à voir maintenant, en attendant les 4 derniers qui vont arriver de façon épisodique, c'est le cas de le dire, pour des épisodes de série, et en tout cas qui vont faire monter la tension et mettre la patience des auditeurs et des téléspectateurs surtout à bout. Ah, l'occasion était trop belle d'écouter 4 bouches.
Yeah.
Rappelez-vous, dans la saison 4, on laissait la pauvre Maxine, Mad Max, c'est comme ça qu'il la surnomme dans la série, ses copains en tout cas, elle avait tendance à se faire absorber par ce monde et le seul moyen qu'ils avaient trouvé de la ramener dans la réalité, c'est qu'il fallait qu'elle ait un Walkman à portée de main et se mettre le casque sur la tête, et en écoutant Kate Bush, elle revenait dans notre monde réel. Nous aussi, on y revient. Sur Kate Bush, qui reste mystérieuse. Elle a une carrière assez extraordinaire, propulsée au firmament des stars, justement dans les années 80, et puis elle continue à produire des disques, beaucoup moins maintenant, mais elle reste toujours très discrète et très mystérieuse. On attend toujours avec la même impatience ses productions quand elle daigne nous en proposer. À propos de production et de film, Manon Dornier, revenons à Séquence Court, et après la compète nationale, il y a la compète internationale, forcément.
Mais j'en profite pour vous remercier tout d'abord pour ces magnifiques choix musicaux depuis le début de l'émission et faire un lien avec Kate Bush, parce que je suis plus Kate Bush que Strange Things.
Oui, j'ai tous les mercredis comme ça, les choix musicaux sont excellents. Hein.
C'est parfait, hein. Franchement, je reviendrai avec grand plaisir. Mais figurez-vous que j'ai un lien avec Kate Bush. Alors, ce n'est pas ma mère, malheureusement.
Ah bon,
c'est le bouche à oreille.
Mais il y a une expo comme chaque année à Séquence. Dans le hall de l'ABC. Cette année, c'est en partenariat avec BD Colomiers. Et c'est une artiste qui s'appelle Christina Tsekov qui fait des trucs super, quoi. Et elle est connue notamment pour un tableau, enfin des dessins que vous verrez dans le hall, ou qui décompose en fait des images de films ou de clips. Et là, je parle d'un clip très très connu de Kate Bush, celui de Wuthering Heights, je crois. Voilà, donc venez voir cette expo si vous aimez les clips, les cours.
C'est du 10 Bush. Au 16 décembre.
Ouais, exact.
Rappelez donc, à quel endroit on peut la voir, cette expo?
Dans le hall de l'ABC.
C'est noté, et il y aura plein de belles choses à voir. Et à propos de musique, le moment des reprises sur le grand écran est venu, et de musique, il en est question dans les reprises. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. People are strange when you're strange, The Doors. C'est le titre d'un documentaire dont vous avez déjà parlé, Laurent, mais pourquoi en reparle-t-on aux reprises? Eh bien parce que, en fait...
Oui, pourquoi en reparle-t-on aux reprises?
Aux reprises, ben oui, bon sang, c'est parce que le film a été remasterisé et qu'en fait...
Les portes ont été rénovées, quoi.
Exactement. Il date de 2009 et il ressort, donc, relifté, et il est visible dans pas mal de cinémas. Guettez un cinéma près de chez vous, notamment au Pathé Wilson, au CGR de Blagnac, mais il y en a d'autres. Et ce sera pour le lundi 8 décembre, 20h. Notez bien, lundi 8 décembre, 20h, pour voir The Doors When You Are Strange de Tom DiCillo. Le texte est dit, raconté par Johnny Depp, c'est bon. Donc l'histoire de ce fameux groupe californien formé en 1965, et l'histoire s'achève évidemment en 71, au moment où Morrison décède à Paris. Il est d'ailleurs inhumé à Paris, au Père Lachaise.
D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques mois, ils ont retrouvé son buste qui avait disparu depuis 35 ans.
Oui, oui.
Morrison avait été volé, pas comment ils ont fait pour le retrouver. Mais
ouais. Moi, quand je suis allé au Père Lachaise, il y a bien longtemps de ça, il y était encore. J'ai eu la chance de voir le buste de Jim Morrison.
Une certaine expérience, on va dire. On va dire un certain âge.
Voilà. Bon, pour découvrir, merci.
J'ai vécu des choses que nous n'avons pas vues.
Vous êtes bien aimable avec moi, c'est gentil. When You're Strange, donc. il y a plein de choses à découvrir sur ce qu'était ce groupe, ce qui était Jim Morrison. Et on peut voir d'ailleurs des extraits d'un film qu'il avait tourné, des petits passages, un American Pastoral. Là aussi, c'est un film un peu expérimental, très particulier, avec Morrison qui interprète le rôle d'un type qui se promène en voiture. Enfin, c'est vraiment... vraiment particulier. On ne voit pas le film, évidemment, dans son intégralité, c'est pas l'objectif, puis c'est le documentaire, mais on en voit quelques morceaux à découvrir, donc, The Doors, When You're Strange, You're Strange, Tom DiCillo. En parlant de documentaire, il y a une autre reprise, demain, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, le film de 2015, qui fait l'objet de rediffusion, lui aussi le lundi 8 décembre, lui aussi à 20h, mais là il faudra aller à Rodez ou au VO de la Cartoucherie pour voir ce film, qui se base sur les constatations de spécialistes qui disent, tel qu'on est parti, on va droit dans le mur, surpopulation, manque d'eau, manque d'énergie fossile, réchauffement climatique. Mais le film ne s'attarde pas sur ce constat, il va plus loin et c'est un road movie, en fait, qui fait découvrir en 5 volets thématiques des exemples de réponses concrètes face aux problématiques environnemental, bien, bien fichu. Et le film a eu beaucoup de succès quand il est sorti en 2015. Après, pour les films de fiction, bah, vous irez voir Django Unchained, lundi 8 décembre à 21h. Décidément, tout se passe le lundi 8 décembre. Le film de Tarantino est proposé au Pathé Labège en VO. La Reine Margot. Au VO de Murray à 18h10.
Ah, Patrice Chéreau.
Patrice Chéreau avec
Daniel Auteuil.
Qui avait eu le César de la meilleure interprète pour son rôle de la reine Margot Auteuil. En fait, une distribution prestigieuse, un film qui avait coûté beaucoup d'argent et qui a eu beaucoup de succès, malgré une critique mitigée. Et l'American Cosmographe vous propose L'œuf de l'ange de Mamoru Oshii, un film de 85, et c'est un film d'animation. Il est lui aussi restauré, il est lui aussi considéré comme une ressortie. Donc vous pouvez le voir dans un cinéma près de chez vous. Ici, c'est à l'American Cosmographe. Il était proposé en sélection Cannes Classique au dernier festival de Cannes. On est aussi dans un futur, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Une ville est dévastée, des ruines gigantesques, il n'y a plus personne, il reste une jeune fille à la peau et aux cheveux d'une blancheur écarlate. Si la blancheur peut être écarlate, là, la question se pose. Et elle prend particulièrement soin d'un grand œuf, ce fameux œuf de l'ange. Bon ben, pour savoir ce qu'est un blanc écarlate et ce qu'il y a dans cet œuf de l'ange, il vous reste d'aller voir ce film, je vous le rappelle, signé Mamoru Oshii. Et puis la Cinémathèque, vous savez que c'est
Festival Synchro.
Synchro. Le violon de Monsieur Chaplin, Mr. Chaplin.
Salle du Sénéchal, entrée libre et gratuite demain à 12h30. C'est à souligner, du cinéma gratuit, accompagné du piano de Camille Fellep et du violon de Lucie Souterne.
Et ce sont les deux premiers films de Charlie Chaplin qui seront proposés. Prémisse à sa future carrière.
1916 et 1917.
Oui.
Alors synchro, c'est synchronisation, c'est pas synchro.
Oui. oui, c'est synchronisation. Ensuite, je vous le rappellerai vraiment parce que il reste un grand film de cinéma, le fameux Misérable. Hein, le Misérable d'Henri Fescourt de 1925, qui fête ses 100 ans. 7h30 à partir de 15h30 au studio.
C'est considéré comme un court-métrage maintenant, 7h30.
Très très long court-métrage.
7h30 et ça se passe au Théâtre de la Cité dans la salle.
Ça fait 460 minutes.
Samedi 6 décembre à 15h30. Notez qu'il y aura une pause au moment où vous aurez faim.
Oui.
À 230 minutes, donc.
C'est-à-dire tous les quarts d'heure pour vous.
Toutes les 4 heures.
Bon, ben, Laurent, c'est à vous. Parlez-nous de ce qu'il faut voir à la télé.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Celle que vous croyez de Safin Ebou, avec Juliette Binoche, Nicole Garcia et François Civil. L'histoire de Claire, une mère célibataire d'une cinquantaine d'années qui entretient une liaison avec Ludo, moins âgé qu'elle, et qui ne semble pas très impliquée dans leur relation. Afin d'en savoir plus sur les intentions du jeune homme, elle se crée un faux profil sur les réseaux sociaux. Un drame assez poignant avec Juliette Binoche, assez intense et très attachante. Vendredi, France 5, 21h. Guillaume, c'est pour vous ça, Blowout?
Ah oui, Brian
De Palma, c'est votre film préféré.
La reprise de Blow Up.
Donc, vous voyez, France 5, il vous écoute et mettent les films que vous chroniquez.
Donc, je vais devenir programmateur pour France 5.
Ben, allez, tant que le service public existe encore.
Je vais envoyer un CV.
Avec John Travolta, bien sûr, et Nancy Allen, plongeant dans l'univers trouble des coulisses du cinéma et des secrets politiques, Blow Out, nous entraîne dans une spirale paranoïaque.
Vous savez ce que ça veut dire, Blow Out? Éclatement de pneus.
Ah, d'accord. Très bien, on apprend beaucoup de choses à dire.
Heureusement que vous avez une roue de secours.
Oui.
Laurent.
On avait un bayrou de secours, mais il a été utilisé.
C'est déjà fait.
Pour rebondir dans l'humour, c'est pas évident.
Oui, oui, c'est compliqué.
Bon, allez, je peux continuer, non, merci.
Oui, mais continuez.
Brillamment réalisé, un thriller politique fascinant, hein, dans lequel John Travolta trouve l'un de ses meilleurs rôles de sa carrière à lui, hein, bien sûr. Samedi 21h sur France 4, Porco Rosso, d'Hayao Miyazaki, au-dessus de la Méditerranée, dans l'Italie des années 20, plane une légende, celle de Porco Rosso, un chasseur de primes aussi redouté qu'énigmatique, dont le visage a été mystérieusement transformé en cochon. Construit autour de personnages attachants et d'une belle histoire d'amour, ce film déborde d'humour, de trouvailles et de pâté. Lundi, c'est Arte, 20h55, ce sera Fargo, des frères Coen. Bon, c'est du déjà vu, mais bon, on le revoit toujours avec plaisir. Un film de 96 déjà, hein, avec Frances McDormand et Steve Buscemi. Histoire rongée par la frustration, Jerry élabore un plan qu'il croit parfait, faire kidnapper sa femme par des criminels de bas étage pour extorquer une rançon à Wade, un homme d'affaires dont la fortune semble énorme. Les frères Coen jouent avec les codes du polar en apportant leur univers très personnel, fait d'humour noir et d'ironie. Le conseil de lecture, ce sera pour rebondir sur vous, Guillaume. Ce sera Francis Ford Coppola, un livre collectif, donc divers auteurs. Rappelez-vous, Coppola a été le roi d'Hollywood et remporté 5 Oscars, dans les années 70. Il a connu la faillite dans les années 80. Il a trouvé quand même une synthèse entre le grand spectacle et les films intimistes dans les années 2000. Et sans conteste, on peut dire que Francis Ford Coppola est l'un des réalisateurs contemporains les plus singuliers, à qui l'on doit bien sûr, entre autres, Le Parrain et Apocalypse Now. Un livre que vous retrouvez aux éditions Capricci pour la modeste somme de 22 euros. Voilà, Guillaume, tenez, je vous l'offre, ça fera un joli cadeau. Voilà pour le cinéma, la télévision cette semaine.
Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient à l'idée de m'appeler parrain?
Oui, non, Corleone.
Il vaut mieux, il ne faut pas le froisser.
Ah oui.
La musique, celle-là, vous la reconnaissez, chère Manon?
Oh oui.
C'est la maison. Alors, je ne sais pas comment il faut dire le nom de ce groupe. Il faut PR2B.
C'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Et c'est la deuxième fois qu'elle nous prête un de ses morceaux pour la bande-annonce de Séquence. C'est notre compositrice attitrée à Séquence. Elle passe en concert en mars prochain en Rex, si vous voulez l'écouter et la découvrir. Et donc, c'est la musique qu'elle fait pour Dieu est timide. Elle a fait la musique de plusieurs courts-métrages et de longs-métrages. Elle est très talentueuse. Et donc, Dieu est timide, super film qui aurait pu se retrouver en Nuit du cours, vu son étrangeté, mais qu'on est très content de montrer aussi dans une compétition nationale, puisqu'on essaye vraiment de montrer aussi tous les genres, pas seulement différentes pratiques. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu me posais la question sur la compétition internationale. J'en profite pour rebondir, parce que je crois que cette année, ce sont mes programmes favoris. Et voilà, c'est incroyable de découvrir des films que vous pouvez retrouver par exemple dans la compétition internationale 3 comme Agapito, où quand je l'ai découvert au milieu de centaines d'autres, vraiment ça m'a fait des frissons, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce film? C'est tellement étonnant dans la forme. Pareil, il est suivi d'un autre film qui s'appelle Between Delicate and Violent et qui est extraordinaire là aussi dans une forme documentaire mais un peu expérimental, où on découvre tout ce qui se cache derrière les photos de famille. Voilà. Et on se permet tellement de choses dans le format court. C'est C'est incroyable de venir découvrir ces films.
Il faut y aller.
On est plein d'idées dans le format court. Rappelez-nous l'adresse du site Guillaume Sidom.
séquence-court.com
pour tout le programme. Merci Manon Dornier.
Avec grand plaisir.
Et
merci
bon festival.
Merci.
Messieurs, vos coups de cœur.
Les coups de cœur. Les enfants vont bien, Fury et le festival séquence court-métrage du 10 au 14 décembre.
Fury, les racontes du cinéma italien jusqu'au 7 décembre, cinémaitalien.com. Le parrain, évidemment, Make to My Love Continue. C'est Doué et le festival Séquence Court.
Eh bien, pour ma part, ce sera Les Enfants Vont Bien. Dites-lui que je l'aime. Fuori de Mario Martonet, et les rencontres du cinéma italien qui finissent bientôt. Et bien sûr, Séquence Court la semaine prochaine.
Et
salut.
Si toujours pas aller voir Arco et L'Épreuve d'amour, c'est vraiment.
Bonjour, c'est Isabelle.
Bonjour, c'est Jonathan.
Merci beaucoup pour vos dons tout au long de ce radiodon.
Merci à tous pour votre générosité et votre soutien.
Tous ces dons qui contribuent